Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Pour commencer l'émission, comme dirait Juliette Arnaud,
en piste les otaries.
T'es parti.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Allez, on fait jute à écouter l'émission d'hier avec Lio, c'était super.
T'as pris une claque, hein. C'est rigolo comme c'est mieux quand t'es pas là en fait.
Ah, comment c'est pas, hein. Non, mais que jeudi et maman elle est fatiguée. Oh.
Non mais en plus, moi je pense que vous, hein, c'est pas la peine qu'on s'écharpe. L'émission d'hier elle était tellement bien que je pense que c'est l'émission référence.
Oula. Ah ouais.
Sauf que... Ouais. Il faut que l'invité d'aujourd'hui soit au niveau.
Ah bah là j'ai zéro doute, hein. On reçoit Pierre Assouline, le gars est on fire.
Ah, il fait du hip-hop Assouline.
Non, mais sérieusement, mais quoi, tu t'intéresses un peu à l'émission Guillaume sinon.
Non mais
est-ce que vous pensez qu'Assouline, il est prêt à dire qu'il écrit comme une savate?
Bah, évidemment que non, enfin, il écrit divinement bien, alors pourquoi il dirait ça, tu vois?
Bah parce que Lio, elle l'autocritique façon cellule maoïste, elle y va quoi. Attention, les banilons.
L'expérience douloureuse du chant est fou. Les chances d'être exposé à ce péril sont nombreuses, chorale scolaire, mariage, karaoké, anniversaire. Comment est-ce
Lio aujourd'hui.
Ah, oui, d'accord. Oui. Enfin là, c'est pas pareil. C'est vrai que Lio, bah parfois, tu vois, elle, en fait, son truc, c'est plus de.
Enfin, oui, enfin, moins, clairement, ça lui arrive de chanter faux comme une paire de seins de la télé-réalité, quoi.
Mais enfin, mais vous voulez quoi, que Pierre Assouline, dans un élan d'autodérision, il brame qu'il écrit comme Bruno Le Maire?
Non, mais bon. moi, je dis juste que le niveau, il est élevé.
Ouais, ouais.
Alors, il fera bien comme il veut, Pierrot. Je pense juste qu'il va être obligé de balancer.
C'est vrai que Lio, il est pas allé mollo polo sur la délation, hein.
Je donne 10 Duval pour un Gainsbourg. De toute façon, je trouve Gainsbourg absolument insupportable. Non, je...
Voilà.
Ouais.
Ah ben ça, c'est quand même un peu plus fandard que de démonter les candidats de The Voice.
Ben ça, ouais. Ça va, c'est pas la surenchère, hein. On n'est pas sur le bloc de Morandini.
Non, mais quand même, si Assouline, il pouvait dire que Proust, c'est un peu surévalué.
Ouais. Voilà. Et que Despentes, en fait, eh ben, elle est hétéro. Ouais,
que non. Sylvain Tesson, il a jamais quitté le 7e arrondissement.
Mmh. Et que Houellebecq, eh ben, il pue pas des cheveux.
Eh ben, on aurait une belle émission. Voilà.
C'est encore loin, le mois de juin. Bonjour la France Inter, nous sommes le jeudi 29 mars 2018 et nous sommes toujours sans nouvelles de Harlem Désir. Nous ne l'oublions pas.
Vous l'avez oublié justement.
On l'avait oublié, ouais, voilà. En attendant un signe de vie, nous allons deviser autour de ces trois sujets. De la marche blanche en mémoire de Mireille Knoll, nous retenons l'émotion d'une population venue exprimer son indignation dans la rue. Quant à Mélenchon insulté, Le Pen exfiltré, au-delà de l'indignité, disons que c'est la quadrature du cercle, n'est-ce pas?
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.
Ça y est, l'intelligence artificielle est là, posée sur le bureau du président de la République par un député magicien. Mathématicien, pardon. Cédric Villani.
Je peux comprendre que la perception limitée d'un esprit non artificiel le voit de cette façon. Vous vous y ferez.
D'accord. Le chanteur Maître Gims demande la nationalité française, mais lui est pour l'instant refusé. La quête d'un autre passeport, voilà qui fait un point commun entre Maître Gims et Pierre Assouline. Une réaction, Pierre?
Quelqu'un peut me rassurer en me disant que c'est une blague.
Ben non. Non. Elle est l'auteur de la célèbre pièce Arrête de pleurer Pénélope, qui aurait dû s'intituler Arrête de rire Juliette. Juju Arnaud. Voilà, démonstration tout de suite.
Alors aujourd'hui, Charline, une équipe de toute beauté est résolue à changer le monde en trois étapes. Étape numéro 1 avec Thomas Bidguin, décrypter le monde par le prisme du storytelling. Parce que Thomas Bidguin dit, comme Jean-Luc Godard, je ne veux pas parler d'autre chose que de cinéma. Pourquoi parler d'autre chose avec le cinéma? On parle de tout, on arrive à tout. Thomas, on arrive à quoi?
Et aujourd'hui, on arrive au secret.
Ah.
Étape numéro 2. Avec Guillaume Meurice, s'enquérir de l'avis du monde, quitte à être aussi subtil qu'une chanson de tragédie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh,
oh, oh, oh, oh, évidemment.
Oh, oh, oh,
oh. Oh là là, c'est beau. Bonjour Juliette, bonjour Charline, bonjour à tous. Ben moi aussi, comme Thomas, je me suis intéressé au secret, à la loi sur le secret des affaires, discutée à l'Assemblée nationale, et j'ai interrogé des députés. Enfin, j'ai essayé.
Je vous remercie.
Non mais c'est-à-dire, vous êtes pressé?
Oui, très pressé.
Allez, cours, petit député. L'amour n'attend pas. Hein.
Et enfin, étape numéro 3, avec Clara Dupont-Monod, dominer le chaos. Parce que, comme Golda Meir, Clara sait bien que pour réussir, une femme doit être bien meilleure qu'un homme, avec une condition supplémentaire, faire taire Guillaume Meurice. Clara?
Oui, bonsoir Juliette, bonsoir à tous. On va parler d'un long voyage, c'est le livre de notre invité.
Oh oui, je me tourne vers celui qui va enjailler notre open space. Vous démarrez comme photographe en agence, avant d'entrer au Quotidien de Paris, puis à François comme journaliste. Vous vous rapprochez ensuite du milieu littéraire, vous publiez une biographie de Gaston Gallimard, et vous succédez à Bernard Pivot à la tête du magazine Lire. Vous avez travaillé sur cette antenne, ainsi qu'à France Culture, et sur RTL aussi, me semble-t-il. Vous avez écrit les biographies notamment de Marcel Dassault, de Georges Simenon ou de Hergé. Vous êtes le fondateur du blog La République des Livres et vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Vous êtes, you are, je vous laisse nous le dire.
Pierre Assouline.
Bienvenue.
C'est lui.
France
c'est vrai, c'est lui, tout simplement.
Charline Vanhoenacker. Par Jupiter.
Bienvenue Pierre Assouline. Et là, il faut que je vous explique pourquoi tout le monde est mort de rire autour de cette table. Car votre dernier roman paru chez Gallimard s'appelle Retour à Séfarade. Et tout le monde a dit 5 minutes avant l'antenne dans le bureau. Si on dit vous êtes et qui répond juif, on rigole. Voilà, c'était, voilà, je vous
ça
le dis comme c'est.
Hein.
Car êtes-vous européen, espagnol, juif, français, citoyen du monde? C'est finalement là-dessus que s'ouvre ce roman avec le discours du roi d'Espagne. Felipe VI, en 2015, qui s'adresse aux Séfarades, les descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. Et le roi propose de les faire revenir en leur accordant la citoyenneté espagnole, discours à la télévision. Le roi d'Espagne fait un discours à la télé et vous, vous le prenez pour vous.
C'est comme oui, ça tout, simplement, tout simplement, en tant qu'écrivain, de ce que vous avez dit, je retire citoyen du monde, c'est pas du tout mon cas, et je rajoute méditerranéen. Mm-hmm. En tant que futur ex-futur, prochain, enfin je ne sais plus, espagnol, ouais. C'est la moindre des choses. Et puis j'ai vécu au Maroc, donc ça a beaucoup compté.
Spontanément, oui. Spontanément, quand vous voyez le discours.
D'abord parce que, bon, un roi ne présente pas d'excuses, mais ce discours, il l'a quand même dit, ça a été une erreur historique, l'expulsion de 1492. L'Espagne a eu tort, donc mes aïeux, les rois catholiques ont eu tort. Et ensuite, il a eu cette phrase que j'ai trouvée très très belle, comme vous nous avez manqué. Mmh. Alors moi, je l'ai pris pour moi, en toute simplicité.
Il n'a pas ajouté Pierre Assouline.
Non, mais c'est une erreur de retranscription. Et je l'ai pris pour moi et je me suis lancé. Mais sans attendre, j'ai déposé un dossier. Et comme toujours, un écrivain, pour savoir ce qui lui arrive, il a besoin de l'écrire en même temps. Donc j'ai déposé un dossier au consulat pour obtenir la citoyenneté espagnole. Non pas pour devenir espagnol, mais pour le redevenir, 5 siècles après. Et dans le même temps, je suis retourné, j'ai jamais cessé d'aller en Espagne, mais là je suis retourné avec dans l'esprit le retour effectif sur la terre des aïeux.
Et oui, donc la nationalité espagnole doit vous être accordée, mais là vous devenez le Don Quichotte partant à l'assaut de l'administration espagnole.
Oui, mais c'est partout pareil. On en parlera tout à l'heure avec Maître Gims. Mais c'est partout pareil parce que c'est l'administration avec un grand A. Sauf que là, ça se double de quelque chose d'un peu différent. Depuis l'expulsion, il y a deux Espagnes. Il y a une Espagne conservatrice, catholique, très réactionnaire. Puis il y a une autre Espagne tolérante, ouverte aux Lumières notamment. Cette Espagne ouverte aux Lumières est ravie qu'il y ait un philo-séphardisme depuis un certain temps et de ce retour. Et puis de l'autre Espagne, qui est tout aussi catholique, prend la loi à, non pas dans l'esprit, mais à la lettre. Et il faut passer devant un notaire. Malheureusement, mon notaire relève de l'Espagne la plus fermée, la plus conservatrice. Ce qui fait que comme il ne me répond pas, je fais intervenir des tas de gens, et peut-être même le roi.
Et vous jouez de votre bagou, et ça se traduit dans le livre par votre plume. Vous parliez un peu espagnol au
non,
moment
d'entamer. Oui. De toute façon, je l'avais étudié, mais en plus, il faut repasser un examen d'espagnol et de civilisation. Donc pendant un an, j'ai suivi des cours à l'Institut Cervantes à Paris.
Et vous couriez après quoi, Pierre Assouline, en courant après ce passeport? Il vous
c'est
manquait
symbolique.
Quelque chose?
Non, j'ai déjà un passeport européen.
Vous ne sentiez pas entier dans votre identité?
Non, c'est que j'ai déjà un passeport européen, donc je n'ai pas besoin d'un autre. Mm-hmm. C'est symbolique, la proposition est symbolique. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'il y a environ 1700 séfarades qui ont obtenu ce passeport depuis 2 ans. Mm-hmm. Sur les 1700, on sait qui ils sont. Majoritairement, c'est des Vénézuéliens qui fuient un pays à feu et à sang. Mm-hmm. Ce sont des Colombiens et des Mexicains séfarades qui fuit également un pays très difficile, où il y a des meurtres tous les jours. En plus, ils parlent espagnol, c'est leur langue natale. Donc venir vivre en Espagne, pour eux, c'est vital, au sens propre du terme. Mais il y a aussi les Israéliens, qui sont des descendants de séfarades, qui en ont besoin pour travailler ou étudier en Europe. Ils ont besoin d'un passeport européen à la place d'un visa. Mais pour nous, en France, ce n'est pas le cas. Ma démarche, elle est symbolique. Même si je n'exclus pas d'aller vivre un jour à Madrid, qui est une ville que j'adore, je peux très bien le faire en étant français, tout simplement, avec un passeport français. Donc il est évident que je conserve ma qualité de français profondément, puisque pour moi, au fond du fond, la vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. J'écrirai toujours en français. exclusivement. Donc, voilà.
Pierre Assouline est avec nous jusqu'à 18h. Je rappelle que son dernier roman s'appelle « Retour à Séfarade », paru chez Gallimard, et Clara Dupont-Mono va y revenir pendant cette émission. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding the studs back at Jim, you know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Sweet James, et vous savez quoi ? C'est rien que pour Arnaud Bideguin, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est devenu spécial dédicace cette émission.
Oui, c'est la disque à la demande.
Vous êtes sur Skyrock.
Avec Clara Dupont-Mono, qui tiendra la libre antenne toute la nuit. et nous parlera du dernier roman de Pierre Assouline, Retour à Séfarade, paru chez Gallimard. Et donc, j'ai dit aussi Thomas Bideguin, oui, j'ai pris votre boulot.
Je suis très embarrassée.
Mais là, qu'est-ce que vous devez lancer ?
Je vais lancer le journal de 17h17.
Je pense que
je vais faire ça.
Ah, oui. Et ben voilà, c'est contractuel.
Faisons-le.
Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose.
Le journal de presque 17h17.
Pensez printemps, mes amis.
Et on commence par les titres.
Oui, on parlera aujourd'hui du Parti Socialiste.
De quoi ?
Le Parti Socialiste, c'est le parti d'Olivier Faure.
Qui ça ?
Ouais, je me doutais qu'en disant Olivier Faure, ça allait pas vous aider. Bon, on parlera également de sport.
De quoi ?
Oh, de sport, vous savez, le truc dont vous avez pris une carte dans une salle et que vous y allez jamais.
Ah non, je vois pas.
Oui, bah c'est logique, vous voyez pas. Bon, il y aura également des brèves pour rendre hommage à Alex Vizorek.
Qui ça ?
Oh là là, c'est pas vrai ! Allez, vas-y, on y va.
Le mec de l'actualité ?
Non, ça c'est VDB, c'est le gars des brèves. Bon, c'est pas grave. Alors, on commence donc avec le Parti Socialiste.
Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, veut une mascotte pour le parti et propose d'adopter un chat.
Oui, c'est véridique. Moi, je sais pas pourquoi, j'aurais plus pensé à un blaireau.
Oui. Oh, je sais pas pourquoi. En tout cas, Jean Jaurès peut se reposer en paix. Son parti est entre de bonnes mains.
Oui, enfin pas encore, parce que là, il manque les croquettes à acheter, puis la litière. Puis il a pissé sur le canapé, il y a Martine Aubry qui gueule. Et Marie-Lise Lebranchu, elle est allergique aux poils. Donc, ils vont faire un congrès.
Oui, ça va, très bien. Allez, on enchaîne. Ça se passait hier à l'Assemblée nationale. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, s'adresse aux députés.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les retraités.
Voilà. Députée, elle a confondu avec le Sénat.
Extrémisme religieux à présent.
Selon une enquête de France 2, l'intégrisme religieux aurait gagné du terrain dans les clubs de sport amateurs.
Ah, mais ça m'étonne pas, parce que moi j'ai déjà vu des gens dans des salles de sport qui avaient enlevé leurs chaussures et qui s'inclinaient sur des tapis.
Ouais, bah, attendez, vous avez vérifié que c'était pas les cours de stretching ?
Ah, j'avais pas pensé à ça. Attendez, dans le Coran, il parle d'abdos fessiers ?
Non, je crois pas.
D'accord. Et dans le.
Abdos fessiers.
Abdos fessiers, ok, on la garde. Et leur prophète, c'est Véronique et Davina ?
Bah non plus, non.
Ok, c'était du stretching, autant pour moi. On enchaîne, pardon, excusez-moi.
Intégrisme toujours, une végane visée par une enquête pour s'être réjouie du meurtre du boucher du Super U de Trèbes.
Emmanuel Valls a aussitôt réclamé l'interdiction du tofu.
Et même du tofu modéré,
tout, tous les tofus, il est remonté contre les tofus.
Il est radical. International, Égypte. Selon les premières estimations, le président Sissi est réélu avec plus de 90% des voix.
Un plébiscite pour Sissi, qu'on appelle désormais l'impératrice. Sissi l'impératrice.
C'est un jeune mot. Sport. Journaliste Lionel Chamoulot, la voix de Roland Garros, quittera bientôt France Télévisions cet été.
Par solidarité, les joueurs français quitteront eux aussi Roland Garros dès le premier tour.
Santé à présent. Une étude révèle que la génétique pourrait jouer un rôle dans la mort subite du nourrisson.
Oui, rappelons que la génétique, c'est également le nom de jeune fille de Véronique Courgeot.
Enfance toujours.
Si, on nous confirme que si.
Le chef de chœur du Conservatoire national de musique de Tours est mis en examen pour pédophilie. Les parents et professeurs dénoncent le manque de vigilance.
Mais c'est vrai qu'ils auraient quand même pu remarquer que lors des morceaux à quatre mains, il n'y en avait que trois au-dessus du piano.
Média, à présent, David Pujadas termine actuellement un documentaire sur Emmanuel Macron.
Eh bien, on a hâte. Le film devrait s'appeler Éloge de la masturbation et sera diffusé en avant-première sur YouPorn.
On termine avec une brève.
Oui, véridique, un Argentin change de sexe. Il devient une femme pour partir 5 ans plus tôt à la retraite, a-t-il dit.
Et changer de sexe et pouvoir partir à la retraite plus tôt, c'est un double sale coup pour Éric Zemmour. Merci Guillaume Meurice. Voilà, nous poursuivons avec une fine plume, Pierre Assouline qui est avec nous.
Qui est désespéré.
On va vous manger tout cru, Pierre.
Non, c'est pas grave.
Voici Pierre, on est une équipe.
Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas. Vous faites partie de l'équipe, vous êtes le pilier, vous êtes le pivot. Voici le premier sujet. La marche blanche en mémoire de Mireille Knoll a rassemblé des milliers de gens dans les rues de Paris hier soir, et c'est bien là l'essentiel. Mais nous sommes en France, en 2018, et plus rien n'est aussi simple que l'émotion ou l'indignation collective. Donc il y a eu du rififi, dû à la présence de Marine Le Pen et à la sélection à l'entrée de la marche faite par le président du CRIF, qui a déclaré Mélenchon et les insoumis persona non grata. Pourtant, après la marche, nous on a tendu l'oreille, c'était sympa, c'était plutôt bon enfant, écoutez.
Ça fait plusieurs fois que je te croise. T'es toujours sur mon chemin, tu veux quoi ?
Mais c'est peut-être toi qui es sur mon chemin, pas moi.
Mais au fait, toi, d'où tu viens ?
Moi, je suis juif. Et si tu veux tout savoir, je suis même juif arabe.
Juif arabe ? À mon avis, juif et arabe, c'est bizarre. Moi, j'aime pas les gens bizarres.
Ah merde, je peux pas encadrer les nazis. Pour être tout à fait exact,
oui,
je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. En plus, c'est du racisme.
Si tu veux mon avis, t'es un raciste ici, c'est what ?
De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison.
Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison.
C'est n'importe quoi, bien sûr, c'est la classe américaine.
Ces tournements de cinéma, bien sûr.
Pierre Assouline, vous qui avez été photographe, je pense même que vous avez pris des photos de mai 68, si je ne m'abuse.
J'étais un petit peu jeune, mais enfin, j'en ai 16 fait quand ans, même. Mais oui. Je n'ai fait que ça.
Qu'est-ce que vous auriez ramené comme image de la marche blanche d'hier ? Ou tout simplement, que choisissez-vous d'en retenir ?
L'image que j'aurais aimé faire, ce sont des portraits et puis une image de foule, mais sans aucune banderole, sans rien, parce que ça illustrerait le silence. Il y a eu, je crois, des moments de grand silence, et c'est ça le plus important, parce que c'est le recueillement. Ce que j'en retiens, c'est deux choses. Une que j'aurais préféré ne pas retenir, c'est-à-dire la maladresse et la bêtise de la direction du CRIF, parce que c'était ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'a fait Khalifa dans son tweet. Et d'autre part, je pense que ça n'aurait pas empêché, par la suite, s'il n'avait rien fait, qu'il y aurait eu des huées à l'endroit de Mélenchon et Le Pen, et pourquoi pas, parce qu'il y a des raisons à ces huées, et qu'ils auraient été exfiltrés. Ça, c'est ce que j'aurais préféré. L'important, pour moi, c'est que cet incident n'éclipse pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pas eux, c'est pas la politique. Comme m'a dit très bien le fils de Madame Knoll, l'essentiel, c'est d'ouvrir son cœur pour constater... une fois de plus, C'est la 12e ou 13e fois depuis 2 ans qu'une femme, une personne juive, est assassinée parce qu'elle est juive. C'est ça qui est le plus important, qui est le plus intolérable, et c'est à ça qu'il faut penser, et c'est de ça qu'il faut parler.
Et le reste donc, le fait que à chaque fois qu'on traite de ce sujet, on marche sur des brèves, parce que vous,
Alex nous manque.
C'est ça. Vous disiez effectivement, c'est une marche blanche, c'est le silence, c'est le recueillement. Et en France, en 2018, on ne peut pas s'empêcher qu'on ne puisse pas atteindre finalement, ce qui devient un idéal, alors que ce n'est pas compliqué.
Non, mais la maladresse n'est pas systématique, ça arrive, c'est crispé. Mais vous savez, la France, c'est spécial. C'est non seulement parce qu'il y a une tension politique permanente, mais tout le débat sur l'identité est crispé en permanence. Donc, puis il s'agit quand même d'assassinat. Je veux dire par là que... En Italie, ça ne se passe pas. On n'assassine pas des gens parce qu'ils sont juifs.
En Espagne, le fait que, par exemple, le roi Felipe, justement, c'est l'objet de votre roman, dise aux juifs séfarades, revenez, vous aurez la nationalité, etc. Ça, c'est vraiment un apaisement qui peut régler beaucoup de problèmes.
Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est complètement déconnecté. C'est tout à fait autre chose. Et puis, ça ne va pas signifier que les gens vont partir. Il faut quand même toujours rappeler que la France, c'est le pays où il y a la plus grande communauté juive d'Europe et le pays où il y a la plus grande communauté musulmane d'Europe. C'est très important, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même nommer les choses. Depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années, il y a eu environ 300 morts en France du terrorisme, ce terrorisme exercé essentiellement par des musulmans fanatisés. Donc il faut, tant qu'on ne nomme pas les gens et les choses, on passe à côté. Donc c'est ça le problème. Et ça ne se produit pas ailleurs en Europe, pas à cette échelle.
Voilà, Pierre Assouline, merci pour avoir traité ce sujet avec nous. Une question autour de la table ou non?
Non, mais Emmanuel Macron, récemment, après les attentats du Super U à Trèbes, a parlé de terrorisme islamiste. Chose qu'on n'avait pas tant entendu que ça au moment des attentats du Bataclan. On avait terrorisme, on avait barbarie, terrorisme
quand même,
islamiste.
Ça fait quand même depuis 2015 qu'on
entend. Oui, mais par un dignitaire politique,
bien sûr. Qu'il ait fait ça. C'est pas suffisant. Pour aller au-delà, il faut aller plus profondément. Il faut... moderniser la loi de 1905 sur la laïcité. Parce qu'elle n'est plus adaptée. Il y a dans un pays où il n'y a plus de distinction publique-privée à cause d'Internet et tout ça. Et donc, le fait de faire de la religion quelque chose de privé, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et en plus, en 1905, il n'y avait pas de musulmans en France. Aujourd'hui, il y a entre 5 ou 6 millions. Et c'est la deuxième religion de France.
Mais est-ce que c'est les musulmans qui posent un problème de laïcité?
Ça pose un problème, parce que c'est un problème général. C'est pas que de la laïcité. Le problème, je pense, pour les musulmans, c'est qu'ils ne sont pas organisés sur le plan institutionnel. Il faut que l'État renforce le caractère institutionnel de l'islam en France, que les imams soient formés en France, qu'on cesse d'envoyer des imams de l'étranger qui importent une idéologie salafiste en France. C'est ça aussi, ce sont des vrais problèmes. Il faut les aider pour ça.
Pierre Assouline est avec nous jusqu'à 18h dans Par Jupiter. Et avec Thomas Bideguin, on va partir sur une thématique du secret, c'est ça?
Oui, visiblement c'est une émission à thème. voilà.
Allez, Thomas.
C'est à moi, effectivement.
En avant, Guingamp.
Voilà, et merci Charline. Et je reviens une fois de plus à la demande générale.
Oui.
Enfin bon, je reviens, voilà, vous parlez de storytelling, de toutes ces petites giboulées d'histoires qui forment les grands mois de mars des récits, surprenants et insaisissables comme un doyen de fac de Montpellier. Qui par ailleurs, Juliette nous le faisait remarquer l'autre jour, s'appelle Philippe Pétel. Philippe Pétel, c'est vraiment un nom de collabole. Enfin voilà. Mais voilà, le thème du moment dans la vie des histoires, c'est sans conteste le secret. Il faut dire que c'est très utilisé dans le storytelling, le secret, surtout par les temps qui courent. D'ailleurs, est-ce qu'on peut raconter une histoire sans qu'elle recèle un secret? Agatha Christie vous dira que non. Alfred Hitchcock ou Georges Clouzot vous diront que non. Nicolas Sarkozy vous dira aussi que c'est pas possible. Donald Trump aussi vous dira que c'est compliqué. Lui qui est prêt à payer pour qu'une star de l'industrie pornographique garde le secret sur leur liaison. On comprend alors qu'un secret, c'est important puisque ça a un prix. 140 000 dollars en l'occurrence. Michel Thor est payé le double pour que Vizorek garde lui aussi le silence sur leur liaison. Sacré Thor, c'est vraiment quelqu'un. Même si j'ai pas vu les films que Marvel lui va consacrer, c'est vraiment... Alors, on comprend... On comprend bien, quand on voit les films à secret, que ce soit Festen ou La mort aux trousses ou Brokeback Mountain ou Les hommes du président, que dans une histoire, un secret ne vaut que par sa révélation. Avant ça, on est dans le poids du secret, avec des regards appuyés, des mouvements de sourcils. Un peu comme dans l'histoire de Stormy Daniels, là, la copine X du président des États-Unis. Ce qui est marrant, c'est pas leur non-disclosure agreement ou les mouvements de sourcils de Trump, qui visiblement ne sait pas trop s'il doit nier toute l'affaire ou s'en vanter. Non, ce qui est marrant, c'est quand Stormy Daniels vient tout déballer à la télévision. C'est la révélation. Là, on comprend tout. Enfin, déjà, on comprend pourquoi son surnom dans l'industrie, à elle, c'est Tati Daniels. Et c'est bien pour ça que lorsqu'on aime les histoires, on ne peut que se lamenter de l'adoption par les députés En Marche de la proposition de loi sur le secret des affaires. Parce que c'est vraiment une machine à nous faire passer à côté de tout un tas de vraiment chouettes histoires. C'est un peu Irene Brockovich qu'on assassine, qu'on muselle et qu'on enferme dans la cave. C'est ça, le secret. Et c'est, je crois, Guy Debord qui en parle le mieux dans sa société du spectacle et sa critique. Pour lui, les espions, les sociétés secrètes, les experts ou les médias, qui met un peu dans le même sac, sont les garants d'un secret à travers, je cite, « leurs récits invérifiables, leurs statistiques incontrôlables, leurs explications invraisemblables et leurs raisonnements intenables ». C'est un peu parano-marxiste, mais c'est tout de même une lecture assez juste de La République en marche et de son culte du secret. Et pour commémorer 68, au lieu d'écouter des émissions de radio absurdes, on peut relire Guy Debord qui avait tout vu venir. Le renouvellement technologique incessant, la fusion étatico-économique, le présent perpétuel et surtout le secret généralisé. En deux mots, la présidence Macron. Guy Debord décrit le secret comme l'instrument décisif de la domination. Et ça se vérifie chaque jour, l'exemple ultime étant la Corée du Nord, dont le leader, avec ses allures de chef de gang dans une prison pour femmes, voue un culte absolu au secret et règne d'une main de fer sur un pays dont on ne sait rien. Alors, à une époque où le moindre de nos mails, la plus anodine de nos photos, la moindre trace de nos pas sur Internet sera vendue, les entreprises pourront, elles, continuer à faire ce qu'elles veulent avec l'air, l'eau, l'argent, le sous-sol africain ou la conquête spatiale. Et c'est pour ça que dans l'univers du storytelling, qui est un peu mon truc ici, il faut pas confondre les secrets et les mystères. Parce que le mystère, c'est démocratique. Pas le secret. Le secret, c'est payer des stars du porno, c'est provoquer des guerres ou faire voter des lois pour effacer ses traces de pas dans la neige. Le secret, c'est la reproduction des élites. Alors que le mystère, c'est nous. C'est le fil ténu de nos existences et puis le sentiment diffus qu'on a que la partie est déjà jouée.
Oh. Thomas Bideguin. Merci.
On n'a rien pigé, mais c'est rudement
mais
beau.
Mais non, mais
le podcast, c'est la réponse, c'est le podcast.
On était suspendu à vos lèvres, Thomas Bideguin.
Mais du coup, vous êtes un peu marxiste quand même.
Bah, j'ai été élevé à gauche, on se refait pas.
Et d'ailleurs, j'informe nos auditeurs que chez ces vendus de chez Facebook, nous avons une page par Jupiter sur laquelle nous avons posté la formidable chronique de Thomas Bideguin sur mai 68 dans une émission.
Décadente.
qui vaut de l'or.
Donc voilà. C'est Pierre Assouline qui est avec nous jusqu'à 18h. Son dernier roman s'intitule Retour à Séfarade, paru chez Gallimard, et Clara Dupont-Moneau va nous en parler.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra, mais pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà. Que si tu m'oublies, ça m'apprendra. Que
que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Playlist, programmation musicale, Chewbacca.
Bah oui, on kiffe nous avec Clara.
Et on adore le heavy metal et on.
Oh là là. Et Rob, c'est pas ce qui est beau, c'est pas ce qui est beau, c'est tout. C'est Pierre Assouline qui est avec nous.
Il a adoré le solo de batterie. Il me le disait en compagnie.
Oui, oui, j'adore.
Juliette Arnaud, vous aimez vous?
J'ai obligé de dire la vérité.
Eh bien, bon, c'est tout de suite.
Le secret.
Avant de reparler du livre de Pierre Assouline et de parler de. Alors, c'était quoi notre sujet de oui, l'intelligence artificielle. Guillaume Meurice.
Oui, ben, je vais vous parler secret des affaires aujourd'hui, hein, parce que voilà, on l'a rappelé, Thomas l'a rappelé, un projet de loi est débattu à l'Assemblée nationale en ce moment. Alors, c'est une loi qui est censée protéger les entreprises des fuites sur leur business. Alors, si on prend par exemple notre exemple, France Inter, on sait qu'à un moment donné, il y a eu pas mal de fuites vers Europe 1. Notamment, il y a une époque, alors pas les auditeurs, mais tout ce qui est tout, quelques trucs quand même qui ont fuité. Mais cette loi, c'est surtout un gros coup dur pour les lanceurs d'alerte, parce que c'est la transposition d'une directive européenne de Bruxelles. Et moi, ça fait quand même quelques années que j'ai appris à me méfier de tout ce qui venait de Belgique. Comme dirait Jean-Paul Sartre, suivez mon regard. Alors, je suis allé à l'Assemblée nationale. Oh, oui, c'est visuel, c'est une blague visuelle. Alors, je suis allé à l'Assemblée nationale pour demander aux députés de me rassurer. Et j'ai d'abord rencontré un vieux routier. Voilà, vraiment un ancien combattant, Claude Goasguen. Et Claude, on le sent bien concerné par cette loi.
Le secret des affaires, c'est-à-dire?
Bah, c'est la loi qui va être votée cet après-midi suite à la directive européenne.
Pas au courant.
Vous n'êtes pas au courant?
Moi, je merde, c'est plutôt affaires étrangères.
Ouais, plutôt affaires étrangères, Claude. Hein, plutôt la Libye, d'ailleurs, en ce moment, pour essayer de sauver les miches de son copain Sarko. Et je vais vous dire, chez les Républicains, on n'est pas hyper à l'aise avec le sujet de secret des affaires. C'est peut-être le mot affaire qui les fait flipper. Par exemple, Nicolas Forissier, député de l'Indre.
Je suis pas trop sur ce texte, moi, mais...
Je vous sens pas hyper concerné par le secret des affaires.
Je pense que le secret des affaires est normal dans les affaires.
Ouais, ouais, on n'est pas sur un gros spécialiste de la question, on dirait un expert de BFM TV. C'est les mecs qu'ils invitent au pif dès qu'il se passe un truc. Une prise d'otage dans un supermarché, on retrouve en direct Jean-Michel, spécialiste des caddies. Ouais, ce genre de personnes. Sauf que là, je vous rappelle que ce sont des gens qui votent les lois, hein, quand même. Donc, j'ai un petit peu insisté auprès de Nico.
Non, mais tout dépend de ce qu'on entend par le secret des affaires. Ça, c'est une notion saine de concurrence.
Oui, mais est-ce que ça va pas justement empêcher des journalistes ou des lanceurs d'alerte de révéler des choses?
Mais je pense que les journalistes font leur travail, que les lanceurs d'alerte se sont beaucoup développés ces dernières années, ce qui n'a rien à voir avec le secret des affaires.
Ah bah si, là, ça a complètement à voir.
Non, non, non.
Si. C'est pour ça que je me fais chier 4 heures à l'Assemblée nationale, hein, soit le double d'ailleurs de la présence annuelle de certains députés. Hein, c'est pas pour beurrer des sandwichs non plus que je fais le planton. Alors, comme je suis un petit peu tenace, j'ai continué avec une question. Est-ce que le fait que tous les lobbies se félicitent de la loi est une bonne nouvelle pour nous, les citoyens?
Moi, je pense que les lobbies ont intérêt à ce qu'il y ait de la transparence. Parce qu'au fond, ils vendent, ils défendent des causes qui sont celles d'intérêts privés, qu'il s'agisse d'entreprises ou qu'il s'agisse d'intérêts type des ONG, par exemple. Et on est bien plus fort quand on est transparent.
Des fois, non.
S'il y a du flou, il y a un loup.
Ouais. Alors, quand on est à prendre une citation de Martine Aubry pour échapper à une question, hein, c'est vraiment la loose. La prochaine fois, il s'en tire avec une raffarinade ou une brève d'Alex Vizorek. Ça va loin, mais on peut aller plus loin dans la justification de la loi avec Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais.
Ce texte ne menace pas les lanceurs d'alerte, mais
eux disent que oui.
Mais oui, mais les lanceurs d'alerte voudraient avoir accès à tous les secrets de l'entreprise. Mais si on va aussi loin... Demain, ça signifie qu'un n'importe quel lanceur d'alerte mettra au grand jour une invention que l'entreprise a mis au point, qu'elle n'aura pas encore brevetée et qui du coup pourra être exploitée par ses concurrents.
Et oui, parce qu'on le sait, Irène Frachon, elle voulait juste revendre le secret du Mediator pour Smarties en fait. Hein, ça, on est bien au courant. Et apparemment, elle en a fait des acides pour vendre à l'Assemblée. Alors du côté de La République En Marche, on est rassurant aussi. Aucun danger pour les lanceurs d'alerte. On les aime, on les bichonne. N'est-ce pas Guillaume Casbarian, député d'Eure-et-Loire?
On encourage et on dit bravo aux lanceurs d'alerte qui dénoncent des faits criminels et de leur dire qu'il n'y a aucune volonté politique d'une quelconque atténuation ou censure de ces droits-là.
Et pour aller au bout du raisonnement, est-ce que vous seriez favorable à l'accueil d'Edward Snowden, par exemple, sur le territoire français?
Je ne me prononcerai pas sur cette question-là.
C'est dommage.
Bon, mais je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là.
On vous sent un petit peu frileux sur, le, sur la thématique.
Non, j'ai pas d'opinion forte sur ce sujet précis. Je préfère parler de la loi et du fond.
C'est un vrai lanceur d'alerte.
Vrai lanceur d'alerte, effectivement.
Ouais, voilà, 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 voilà. C'est bien les lanceurs d'alerte, mais loin. Quand ils sont quand même loin, un mec qui révèle à toute la planète que les Américains nous espionnent avec les mails, c'est quand même un peu dommage. C'est vrai que chaque fois que Clara Dupont-Monod envoie une photo d'elle nue à Pierre Gattaz, bah, c'est un mec du Nevada hein, qui se paluche dessus en premier. Mais en tout cas, on a du mal à voir à quoi cette loi peut être utile aux citoyens. Alors j'ai demandé directement au chef des députés La République En Marche, Richard Ferrand, mais il avait pas l'air hyper à l'aise non plus le gars.
Si, bien sûr, je porte naturellement ce projet, mais
ah bah voilà, c'est pour ça que
Raphaël
je...
Gauvin est notre rapporteur qui connaît parfaitement bien ce sujet.
C'est dommage parce que j'ai plein de questions à vous poser. Sur les lanceurs d'alerte,
non, mais écoutez,
qui craignent justement...
Mais je sais, ils craignent, ça fait longtemps, dans la loi Macron, il y avait déjà eu un dispositif comme ça, ils craignaient déjà... Ils craignent toujours.
Oh, ils sont chiants, les lanceurs d'alerte. Flippés, là. Tous des, tous ces gens qui ont sacrifié leur vie, leur santé, leur famille pour l'intérêt général. Contrairement à ceux qu'on vient d'entendre, hein, qui semblent défendre en général leurs intérêts.
Merci, Guillaume Meurice, avec Kevin Pelot à la technique, Anne-Sophie Ladonne à la réalisation aujourd'hui. Pierre Assouline est en notre compagnie. Pierre Assouline de l'Académie Goncourt.
Ouh là là, ça claque.
Eh ben, évidemment, ça claque, c'est pour ça que je le dis.
Niveau, hein.
Ouais, ça même se remet du niveau, là. Sujet 2. Toujours en compagnie de Juliette Arnaud et Clara Dupont-Monod et Thomas Bideguin. C'est Emmanuel Macron, président de la pensée complexe, qui veut faire de la France un young leader de l'intelligence artificielle. Cédric Villani a rendu son rapport ce matin sur ce qui déclenche dans la population pas mal de fantasmes. La France a peur. Mais pour nous rassurer, Cédric Villani a un truc qui tient de l'époque du Minitel. Écoutez, ça rassure.
J'aime faire des trucs sur mon computer. Ordinateur. Ordinateur. J'aime bien taper sur ton clavier. Ordinateur, ordinateur. Je rentre des chiffres dans ton disque.
Voilà, ça on aime.
Mais voilà, c'est on vous en parle.
La liste.
C'est bien rangé.
Message à caractère informatif 2, car ils sont de retour sur Canal, Nicolas et Bruno, qu'on adore. Pierre Assouline, est-ce que l'intelligence artificielle, elle vous fait aussi fantasmer?
Beaucoup. Je m'y suis beaucoup intéressé, notamment par rapport aussi au transhumanisme, parce que ce sont des milieux connexes, pour un roman que j'ai publié il y a 2 ans qui s'intitule « Golem ». Et je m'y intéresse beaucoup. J'ai lu le discours de Macron, parce que ça m'intéresse énormément. J'ai envie de dire « il était temps ». Il était temps parce que c'est déjà presque trop tard. Qu'il y ait une réaction française, c'est bien, il faut l'encourager. Techniquement, on se retrouve quand même face à Facebook, à Microsoft, à Google et à Amazon, les 4 grands qui investissent énormément d'argent dans la recherche sur ça, mais un profit qui est personnel, qui n'est pas uniquement un profit pour l'humanité. Il y a une grande différence, il y a une valeur ajoutée des chercheurs français et de la France en général sur ce sujet-là, c'est que nous, on a un comité d'éthique très fort. On le voit notamment pour la question du transhumanisme. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais tout le débat, c'est est-ce qu'on peut autoriser un certain nombre d'opérations à but non thérapeutique, c'est-à-dire pour booster la performance des individus. Les transhumanistes qui estiment que l'homme est mal fait, n'est pas fini, n'est pas achevé, il faut l'aider justement à voir mieux, à courir plus vite, à respirer mieux,
à penser mieux,
à booster la mémoire. Donc
c'est un programme qui est fait pour Guillaume Meurice. Hein.
C'est parce oui,
qu'on part, pas on part du
c'est
brouillon.
Parfait,
et...
c'est un programme qui est fait pour en permanence être dans la performance par rapport à autrui. Or le comité d'éthique en France dit non. Il faut autoriser ces opérations, notamment du cerveau, qui sont très très poussées en France, exclusivement à but thérapeutique, pour soigner des gens. Donc il y a un vrai fossé. Et le comité d'éthique, c'est un vrai rempart. Aux États-Unis, on peut avoir des opérations comme ça si on n'est pas malade. C'est une grande différence. Donc je pense que dans cette perspective de Macron, qui est, j'espère qu'elle n'est pas trop tard, de travailler sur l'algorithme en quelque sorte, hein, de dominer l'algorithme pour ne pas qu'il nous domine à nous. Eh bien, je pense qu'il faut surtout aussi renforcer les comités d'éthique concernés.
Mais les citoyens aussi voudront, c'est quand même des choix...
Oui, mais les citoyens aussi, peut-être même qu'il faudra un jour voter là-dessus. Ouais. Mais en attendant, que je pense que des comités où il y a des philosophes, des sociologues, des historiens, des écrivains, des intellectuels...
Ah bah si l'élite est là, on est rassuré, Pierre.
Oui, vous croyez?
Oh bah là, je peux vous dire.
Il faut un contrôle. Ouais.
Pierre Assouline avec nous pour son dernier roman « Retour à Séfarade » paru chez Gallimard, Clara Dupont-Monod.
En parlant de contrôle.
Oh, dites donc.
Oui, parce que l'actualité, c'est quand même aussi ça. C'est le livre de notre invité, Pierre Assouline, « Retour à Séfarade ». Alors, vous l'avez expliqué, ça commence par le discours d'un roi, Sa Majesté Felipe VI, qui dit donc en 2015 aux Juifs d'Espagne, en substance, en gros, on vous a chassé le 31 juillet 1492, on est désolé, non mais revenez, vous serez à nouveau espagnol. C'est quand même un beau geste.
Attention Clara, il dit pas ça, il dit ça devant les Juifs d'Espagne, oui. Mais il s'adresse aux séfarades du monde entier.
Exactement, et il dit revenez, et comme ça vous serez à nouveau espagnol. Alors, le geste est assez beau et assez fort pour qu'on se surprenne à rêver, parce que du coup on voit ça et on se dit, bah tiens, si on rêvait d'un Erdogan qui dirait aux Arméniens, on a tenté de vous exterminer en 1915, on est désolé, non mais revenez. On pense aux Australiens envers les aborigènes, ou... pourquoi pas la France envers Jean-Jacques Goldman ? Non mais reviens, je suis désolée, mes jours se ressemblent et je suis l'ombre de ton chien, mais je m'égare. Ce geste du roi.
Non, mais on n'a pas droit.
Ce geste du roi a tapé dans le cœur du Pierre Assouline. Car vous vous dites, je vous cite, « Le roi me propose de rentrer. Cela n'arrive pas souvent dans la vie d'un homme. Pas de quoi faire oublier l'Inquisition, mais c'est gentil quand même. » Et vous voilà parti sur les traces d'un peuple qui, mine de rien, a eu 3 mois pour boucler des générations de vie dans un endroit. Un peuple donc devenu séfarade, mais qui, même exilé, même traqué et malmené, a continué à parler le castillan pendant 5 siècles, et ce uniquement par amour de l'Espagne. Les chroniqueurs n'auront pas assez de larmes pour pleurer le pays perdu, lequel disputait au royaume d'Israël le statut de parure de la terre, écrivez-vous. Et je trouve, Pierre Assouline, que vous avez écrit sur ça, sur l'exil. Bien sûr sur l'identité, la judéité, le retour, mais d'abord, moi je l'ai lu comme un livre sur l'exil. Dans votre livre, il prend la forme d'un silence. Au lendemain de l'expulsion, c'est quand même 200 000 personnes qui ont fait leur bagage et les rues d'Espagne sont soudain désertes. On lit le vent, on lit le silence, non pas assourdissant, dites-vous, mais minéral, envoûtant, vertigineux, ce sont vos mots, et la littérature naît souvent des silences vertigineux. Cet exil des séfarades, vous le rappelez, au fond, il est presque constitutif de ce peuple, puisqu'ils sont d'abord exilés d'un livre, la Bible. Les séfarades sont cités une fois dans la Bible, une seule ligne pour une grande lignée, mais quand même chassé du grand récit religieux. Et vous expliquez combien et comment un exil peut s'imprimer dans la chair d'un peuple, mais presque parfois comme un bijou de peau. C'est-à-dire que l'exil donne aussi une force et une poésie incomparables. Et comme la poésie n'a pas de passeport, l'exil peut aussi devenir un trait d'union, un ciment. Et le sentiment de l'exil, c'est aussi parfois ce que les séfarades ont en commun avec tant d'Espagnols qui ne sont pas juifs. Alors attention, l'exil ne va pas évidemment sur la douleur, sa vieille compagne, douleur de la perte d'un lieu, mais pas seulement, je vous cite, « car si sa terre manque à l'exilé, il n'y a pas que la terre, son ciel aussi. Un exil est un déraciné, mais à force de dire qu'il se déterre, on en oublie qu'il se déciele. » Vous avez écrit « La balade des exilés ». On entend leur voix, on entend aussi la voix de ceux qui détestent les exilés. Vous vous montrez parfois en colère, et notamment envers l'Église espagnole et son enfant fou qui est l'Inquisition. Mais la plupart du temps, votre moteur qui court de bout en bout dans ce livre, c'est une immense curiosité pour ceux qui vous ont précédé. Et vous dites cette chose sublime, vous dites « je ressens comme un violent désir d'ancêtre ». Et alors vous parlez de nous tous, terriens. Bien sûr qu'on ne peut pas demander à un seul être de porter toute la mémoire d'un peuple, mais... Vous pointez du doigt que nous sommes tous faits de fantômes, de marches forcées, de déracinements, d'exil. Et avec ce livre, vous prenez votre place dans la cohorte, vous vous inscrivez toujours l'écriture, dans le grand récit que vous faites autant qu'il vous fait. Et vous citez Tacite, qui pourtant n'était pas séfarade, et qui résume votre démarche littéraire, « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». C'est exactement ça. Je vous donne les références. « Retour à Séfarade » de Pierre Assolini est paru chez Gallimard.
Merci Clara Dupont-Monod. Ah
bah j'ai bien fait de venir. Hein.
Oh bah, ça rattrape tout.
Merci.
Ça rattrape Meurice.
Ça compense terriblement.
Et en plus, on va pouvoir poursuivre le sujet avec Maître Gims, qui est dans la même situation. Pierre Assolini, c'est fou. Il a fait toutes les démarches.
C'est tout ce qu'on a en commun.
Hein. Hein bah oui, je me doute. C'est pour ça que c'est d'où le rire, le décalage, cul un mouton. Maître Gims, donc, qui a fait toutes les démarches pour devenir français sans utiliser de passe-droit. Résultat, il ne l'a pas obtenu, du moins pas encore. Alors, le rapport francophone d'origine congolaise rappelle qu'il est pourtant un ambassadeur de la langue française dans le monde. Alors, Pierre Assolini, Maître Gims, qui est rappeur. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît autour de cette table.
Évidemment.
Bah oui. Bah oui. C'est Bella, bah oui. Ça a été écrit pour moi.
Ça a payé comme jamais.
Yeah, ouais, Pierre.
Ça a payé comme jamais.
Et voilà.
Oui, grave. Mais évidemment. J'adore. Alors oui, évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est vrai que c'est troublant. C'est comme dans votre livre, vous expliquez, moi, c'est pas parce que je suis écrivain et à l'Académie Goncourt que je vais utiliser mes passe-droits quand vous allez au consulat, etc.
Ah non, non.
Oui, bah, lui, c'est pareil, mais vous êtes, alors lui, dans son cas, ambassadeur, dit-il, de la langue française. Je ne sais pas si c'est rassurant, ça, d'ailleurs.
Si, quand vous écoutez les paroles. Ouais. Mais non, moi, ça me touche, son histoire, mais elle est courante, c'est arrivé à plein de gens. En France, c'est l'administration. Il manque quelque chose dans le dossier d'article. Les articles que j'ai lus sur
un article qu'on a pris dans Le Point.
J'en ai lu d'autres parce que je lis ça au fur et à mesure que ça paraît. Il est très sincère, il a vraiment envie. Je veux dire, à la limite, il n'a même pas besoin de passeport parce qu'il est français et il fait beaucoup de choses pour la langue. Simplement, ce qui manque, c'est je voudrais voir les motivations, l'argumentation développée dans la réponse de l'administration. Pourquoi on le lui refuse régulièrement? En général, c'est motivé, un refus. Qu'est-ce qui a marqué? Et ça, personne ne le dit. Moi, ça m'intéresse.
Mais peut-être parce qu'il n'a pas voulu, lui... Non, mais parce que ça relève peut-être d'une chose intime dont il a pas.
Je vois pas l'administration parler d'un truc intime.
Non, non, l'administration lui a fait passer des tests.
De toute façon, tout le monde sait qu'il vient du Congo. Enfin,
il avait 2 ans quand il est arrivé en France.
C'est pas le problème. C'est le secret. Il y a un secret.
Il y a quelque chose. Là.
Il dit qu'il a passé des tests de français où on lui a demandé de décrire des photos de frigo et de micro-ondes.
Ça va.
Non, mais ce que ça veut dire, c'est extrêmement effrayant, c'est que quelqu'un qui est arrivé depuis l'âge de 2 ans, qui a à ce point chanté la langue française, si ça lui est refusé, je vous dis même pas ceux qui sont là depuis 5 ans. Oui. Qui sont pas connus, c'est épouvantable ce que ça dit en creux.
Mais ça m'est arrivé en France, vous savez, ce que vit Maître Jim. Je suis né français, de parents nés français, et mais mes enfants étaient franco-britanniques par leur mère. Et il a fallu à 18 ans choisir. Elles ont choisi d'être françaises. Et donc on me dit, il vous faut un certificat montrant que vous êtes français. Je leur dis, mais j'ai mon passeport. Ah oui, non, mais un certificat de naissance, etc. Je vais à la mairie. Ils me disent, mais c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Ils disent, vous êtes né au Maroc. Je dis, oui, le Maroc était une république française. Il y a marqué sur le. Oui, mais il y a marqué protectorat. Il a fallu, et ils m'ont dit, il va falloir plaider au tribunal. Je suis allé voir la directrice de l'état civil à la mairie, et elle m'a dit, vous avez de la chance, j'aime beaucoup vos livres. Je vais aller plaider pour vous.
Pierre Assolini.
C'est honteux.
Guillaume, vous avez une proposition pour Pierre Assolini.
La tradition de fin d'émission, c'est le sketch qu'on propose à l'invité. Et l'actualité du jour, c'est Henri Guénon qui a été viré de Sud Radio.
Oh là
et
là
ça, c'est terrible. On l'aime beaucoup, Henri. Donc, on a imaginé une petite réunion entre Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et Henri Guénon que vous allez interpréter, Pierre. On y va tout de suite.
Comment ça?
Ah là là, mon pauvre Henri, quelle indignité.
Sud Radio m'a tué.
C'est scandaleux, se faire virer parce qu'on défend les honnêtes gens comme ça.
Calme-toi, mon chouchou.
En plus, ils avaient intitulé ma chronique « Libre comme Guénon ».
Sur ce coup-là, ils n'avaient pas tort, maintenant vous êtes complètement libre. Hein.
Alors que moi, avec les juges qui me courent au cul, je ne suis pas prêt d'avoir ma chronique « Libre comme Sarkozy ».
Vous croyez que je pourrais postuler à France Inter?
Oh, vous voulez pas plutôt demander à Radio Courtoisie, quand même?
Ou à la limite, France Culture avec Alain Finkielkraut?
Oui.
Je pense plutôt à remplacer Jean Lebrun dans la marge de l'histoire.
Ah, pourquoi pas, mais il faudrait changer le titre de l'émission.
Je l'ai déjà, la marge de l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire.
Excellent, oui, excellent, c'est vraiment remarquable. Je pense que vous seriez aussi très bien dans carnet de campagne.
Comme tes carnets de campagne électorale, chouchou.
Non, alors voilà, non, bah, en fait c'est nul comme idée, d'accord.
Et sinon, j'avais pensé au jeu des 1000 euros.
Combien, vous dites?
1000 euros.
Ridicule, quand je pense à Mohamed Kadhafi.
Oh, quelle bande de gueux sur France Inter.
Ou alors je présente le téléphone sonne.
Allô?
Oui, bonsoir, ici Paul Bismuth.
Ah ok, je vois. On oublie, hein. Boomerang, ça n'ira pas non plus.
Ah, pourquoi?
À cause de toutes ces mises en examen qui vous reviennent dans la gueule.
Oh, mon pauvre chouchou est innocent.
Quant à l'instant M, j'imagine déjà les petits rigolos qui vont associer le M à mis en examen.
Quelle honte, c'est pas l'idée que je me fais du service public.
Alors, il ne reste plus qu'une solution.
Je vous chante une chanson?
Non, t'es gentil, non merci Carita, non merci.
La solution, c'est affaire sensible.
Ok, donc fais-nous plutôt une chanson à ce moment-là. Ouais.
Quelqu'un qui m'a dit que tu mentais encore. Merci.
Bravo, vous faites un très bon, très bel Henri Guénaud.
Mon Dieu, je le déteste.
On le salue, il doit nous écouter, il a le temps maintenant, Henri.
C'est vrai?
Oui.
Bah oui, pour Henri.
Vous voulez qu'on l'engage comme chroniqueur?
Bah, c'est un super humoriste, moi, je trouve. Il fait un très beau boulot.
Sud Radio dit qu'il était trop politique. C'est pas oui. Comme s'il ne le savait pas au départ.
Belle surprise!
Je sais pas. Oh là là, écoutez. Pierre Assouline, un grand merci d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un bonheur. Je rappelle, Retour à Séfarade, paru chez Gallimard. Et je peux vous dire qu'au niveau écriture, bon, pour ceux qui connaissent bien Pierre Assouline, c'est pas la peine de le souligner, mais je trouve que c'est une bonne claque, Pierre. Et oui, oui. Prenez-en la graine, vous. Voilà. Ouais. Bravo, Pierrot. Ouais. Merci à tous. Juliette, vous buvez de l'eau, mais alors désannoncez un petit peu autour de la table. Merci.
Qu'est-ce qu'il y avait?
C'était Thomas Bideguin, c'était Guillaume Meurice.
Oui.
Ce fut Clara Dupont-Mono. Ouais. Et c'était surtout Pierre Assouline.
Ouais, merci beaucoup à tous. On se retrouve demain en compagnie de Karine Viard. Et voici le mot de la fin.
Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.